Bonjour, je suis très heureux que nous avons professeur Jean Krivine comme notre troisième intervenant dans notre cours. Jean est un professeur à l'Université Paris Diderot, à l'IRIF, que c'est l'Institut de Recherche en Informatique Fondamentale et dans l'équipe Programme, Preuve, Système. Il a étudié avec Jean-Jacques Lévy, il a fait son doctorat avec Jean-Jacques Lévy à INRI à Roquencourt. Et après, je l'ai rencontré, c'est 13 ans maintenant, dans des circonstances intéressantes, mais trop long à raconter ici. Et dans cette période, Jean a implémenté le premier simulateur Kappa, qui maintenant est dans sa quatrième génération, dans les mains capables de Pierre Boutillier. Et c'était Jean qui a produit le premier programme. Et il a aussi fait le premier pas dans l'analyse causale, dont on parlera, je crois, deux leçons. Après ça, il est retourné comme un postdoc avec Robin Milner, qui est à l'École Polytechnique. Robin Milner, vous savez, peut-être est un des grands géants de l'informatique, un des architectes de la théorie de la concurrence. Et après, il est retourné chez notre équipe à Harvard, où il s'est imprégné de biologie. Et ensuite, il avait une brève période à l'Institut des hautes études, et après, en suivant de ça, il a pris son poste actuel. Il s'intéresse de la théorie de la concurrence et des applications de la théorie de la concurrence à tout, y compris la biologie. L'esprit de Jean est exceptionnellement large et polyvalent, ou pour utiliser un mot que j'ai appris de Gérard Berry, polysavant. Et je crois que cette combinaison de rigueur avec un intérêt sincère pour la biologie l'a mis sur un pas intellectuel très inhabituel et très prometteur.
Merci Walter de m'avoir invité à parler à ce séminaire. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu connexe au cours de Walter, qui n'est pas tellement sur le langage Kappa lui-même, mais ça va tourner autour du langage Kappa et de réécriture de graphes. Mais on va s'intéresser ici à la question de la représentation des connaissances. Alors en biologie, et notamment en biologie qui tourne autour de la théorie des langages de programmation, il y a toute une, on pourrait dire un buzzword, un mot valise qu'on entend assez souvent qui parle de connaissances exécutables, donc en anglais executable knowledge. Donc c'est l'idée que on veut non seulement être capable de représenter l'information biologique, mais on ne voudrait pas que ce soit juste une carte statique qui nous aide à se souvenir de ce qui est vrai en biologie ou de ce qui a été observé, mais en plus, on voudrait être capable de l'exécuter comme si c'était un programme. Et donc, on va parler de ce problème-là aujourd'hui, notamment d'une approche qu'on pourrait appeler un peu réductionniste, qui est de dire on veut représenter des faits biologiques tels qu'ils ont été observés en labo, et tels qu'ils ont été publiés dans des papiers, et à partir de ces faits, essayer de dériver des modèles, sans avoir d'a priori sur la fonction des objets qu'on décrit. Alors le point de départ, souvent quand on donne des exposés, surtout des exposés pour des non-biologistes, c'est de commencer à dire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce problème. Alors peut-être ça m'aiderait à faire l'exposé, de savoir qui parmi vous, Walter avait posé la question et je voudrais la reposer aujourd'hui, à un background de biologie. Et le reste, c'est plutôt informatique. Donc c'est minoritaire informatique, majoritaire biologiste. Hein, c'est bien, donc il va y avoir un théorème qui est qu'à tout moment de l'exposé, il y a au moins une personne qui comprendra ce que je dis. Donc alors ça, pour les biologistes, ça va vous paraître un peu caricatural, mais c'est sans doute nécessaire pour ceux qui ne connaissent pas la biologie. Ça ne ressemble pas à un Graal, mais c'est un Graal, là, ce que je viens d'écrire ici. C'est l'idée que c'est une grosse part de l'activité en biologie moléculaire et biologie des systèmes, c'est d'essayer de comprendre les voies de signalisation de la cellule. Alors qu'est-ce que c'est que des voies de signalisation? Donc c'est évidemment une image très grossière, mais vous voyez ici la membrane de la cellule. Enfoncée dans la membrane de la cellule, vous avez des protéines particulières qu'on appelle des récepteurs. Et ces récepteurs, c'est des objets qui sont assez plastiques, de sorte que quand un certain type de composant chimique ou moléculaire se lie sur ces récepteurs, ben ces récepteurs vont changer de structure 3D, de sorte qu'à l'intérieur de la membrane, il y a d'autres protéines ici qui vont être capables de sentir le changement de cette face interne du récepteur et de se lier à ce récepteur et de s'activer mutuellement. Donc c'est ça qu'on appelle le début d'une voie de signalisation. c'est qu'il y a un petit composant chimique qui se lie au récepteur, le récepteur change de forme, et comme conséquence de ce changement de forme, il y a toute une série d'interactions entre protéines qui va se produire. Et il y a une de ces interactions qui est particulièrement importante, c'est les interactions qui vont avoir lieu juste avant le noyau de la cellule. C'est-à-dire que certaines protéines ici vont être activées, elles vont rentrer dans le noyau. Donc ici, on peut imaginer qu'il y a une sorte de filtre qui fait que ces protéines, naturellement, n'entrent pas dans le noyau. Mais si elles ont été activées par cette voie de signalisation, elles vont pénétrer dans le noyau et, au bout d'un certain temps, elles vont activer une réponse génétique. C'est-à-dire qu'il y a des gènes qui vont être transcrits ici. Ces gènes vont finir par produire des protéines. Et ces protéines vont, à leur tour, interagir avec ces voies de signalisation. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse, pourquoi est-ce que les biologistes s'intéressent à ces voies de signalisation? Alors pour le dire grossièrement, une grosse partie en tout cas de l'intérêt qu'on porte à ces voies de signalisation, c'est d'essayer de comprendre la biologie du cancer. Donc qu'est-ce que c'est la biologie du cancer ici? C'est d'essayer de comprendre comment ça se fait que certaines cellules ne réagissent pas de manière standard à ces signaux qui sont émis autour. Alors si vous regardez le nom que les biologistes donnent à ces signaux, vous voyez qu'il y a une intuition un petit peu fonctionnelle derrière le nom qu'on donne à ces signaux. Ici, par exemple, vous avez une famille de signaux qu'on va appeler des growth factors. Alors pourquoi est-ce qu'on les a appelés comme ça? C'est juste qu'on constate, c'est une observation empirique, que lorsque ces signaux activent ce récepteur-là, au bout d'un certain temps, on voit la cellule grossir et éventuellement même se diviser. Là, on a ici... Ça a été représenté de manière un petit peu caricaturale, à l'opposé des signaux de croissance. On a des signaux de mort, death factors. C'est pas le titre d'un film. C'est juste le fait que lorsque ces récepteurs sont activés par des signaux spécifiques, on a tendance à voir que la cellule ici rentre en apoptose. Et l'apoptose, pour les non-biologistes, c'est le suicide de la cellule. Et c'est un principe qui est actif, qui est consommateur d'énormément d'énergie. C'est pas juste un principe passif. Et donc, pour activer l'apoptose, il faut recevoir des signaux. Ce n'est pas quelque chose de spontané. Donc, si on a une compréhension comme ça, un peu à milieu du fonctionnement de la cellule, on voit maintenant le cancer non pas comme spécifiquement une maladie, mais comme un phénotype. C'est-à-dire qu'on va avoir une cellule qui, par exemple, en absence de signaux de croissance, grossit quand même et se divise. Ou bien une cellule qui, alors qu'elle reçoit des signaux qui sont censés déclencher l'apoptose, refuse de rentrer en apoptose. Donc, on peut interpréter le cancer comme un comportement anormal, si vous voulez, de ces voies de signalisation. Et comme l'a dit Walter dans un de ses cours, malheureusement, la chimie de la médecine ne peut pas intervenir sur le phénotype, elle est obligée d'intervenir sur les mécanismes. Donc, je ne peux pas commander à cette cellule comme si c'était un automate en lui disant « rentre en apoptose », je suis obligé d'utiliser le langage de programmation de la cellule pour la faire rentrer en apoptose, c'est-à-dire d'activer ses voies de signalisation. Donc une vue comme ça globale de la cellule n'est pas suffisante si j'ai envie de faire du intelligent drug design, de faire de la médecine intelligente, de la fabrication de médicaments intelligents. Je vais essayer de trouver des composants chimiques qui vont essayer d'intervenir sur ces voies de signalisation. Donc quand on regarde... Pour ceux d'entre vous, celles d'entre vous qui êtes biologistes, quand on voit cette carte-là, on a presque envie de sourire parce qu'on sait que la réalité est bien, bien plus compliquée que juste cette carte simple. Et donc, si moi, je travaille dans une boîte qui va essayer de fabriquer de manière intelligente des médicaments, je ne peux pas me contenter d'une vision à des milliards de kilomètres de la véritable biologie. Il faut que j'aille voir dans les entrailles de ces voies de signalisation qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut éventuellement expliquer un cancer. Alors, pour ça, je suis obligé de regarder un niveau très très bas. Je suis obligé de regarder c'est quoi les briques élémentaires qui font que l'information peut être transmise au niveau de ces voies cellulaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces briques élémentaires? En fait, elles ne sont pas si diverses que ça. Elles ont plein de noms, elles ont une diversité chimique très variée, mais si on les regarde avec des yeux d'informaticien, finalement, le principe expressif de ces briques élémentaires, c'est assez simple. Je les ai résumées ici. Vous pouvez imaginer que vous êtes en train de jouer à un jeu de Lego, sauf que les pièces de Lego, elles sont mobiles. Elles n'ont pas qu'une seule configuration. On peut imaginer, par exemple, qu'elles en ont deux, une configuration regardée comme celle-là et une configuration comme celle-là. Et maintenant, pour passer d'une configuration à l'autre, il vous faut appuyer sur la pièce de Lego. Elle ne va pas spontanément passer dans cette configuration. Et alors, pour appuyer sur la pièce de Lego, on va devoir mettre de l'énergie. D'accord ? Donc, c'est un jeu de Lego un peu plus compliqué. Ou si on a besoin d'une pièce comme ça, il faut partir d'une pièce comme ça, mettre de l'énergie pour produire une pièce comme ça. Et ce mécanisme, c'est décrit par une interaction entre un enzyme et son substrat. Donc ici, on a la pièce bleue, qu'on appelle A, et vous voyez qu'elle a une partie qui nous intéresse, qui est un domaine kinase. J'expliquerai dans deux secondes qu'est-ce que ça veut dire. Mais vous voyez que ce domaine kinase de A, il est caché dans un repliement de A. Donc si j'achète cette pièce de Lego ici, je ne peux pas l'utiliser comme une kinase parce qu'elle est inactive. C'est comme ça qu'un biologiste en parlerait, on dirait que c'est une kinase inactive. Mais vous voyez qu'ici, elle a un petit résidu qu'on appelle un résidu sérine, ici, pour l'exemple. Et ce résidu sérine, il a la propriété chimique que quand il est mis en contact avec un autre domaine kinase, même, ça pourrait même être celui de la même protéine, ce résidu sérine peut recevoir un petit groupe phosphate. Et en recevant ce petit groupe phosphate, va recevoir de l'énergie qui est susceptible de la faire changer de configuration. Donc voilà la procédure. On a maintenant une autre kinase B qui, elle, a un domaine catalytique actif, et il se trouve que A et B sont capables de se coller à la manière de pièces de Lego, c'est-à-dire qu'elles ont des formes complémentaires. Et au moment de cette interaction, le domaine kinase de B va être en contact avec la sérine de A, il va y avoir un petit échange d'énergie ici, et la protéine A va changer de structure et maintenant révéler son domaine kinase. Donc vous voyez qu'avec ces petites briques élémentaires, on peut faire de la transmission d'informations. Parce que vous voyez que si B, maintenant, est dans cette forme ouverte, c'est peut-être parce qu'elle a été activée par quelqu'un d'autre. Et il n'y a qu'au moment de cette activation que B est capable d'activer A, et maintenant A est actif et va être capable d'activer un C. Et donc une voie de signalisation, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est ni plus ni moins qu'une série d'interactions physiques, d'échanges de bons procédés énergétiques et d'activations ultérieures. Donc quand on dessine quelque chose comme ça, vous voyez ces flèches de causalité. Ces flèches de causalité qui sont représentées sur cette voie de signalisation, c'est ni plus ni moins qu'une série d'interactions, de contacts entre protéines, de modifications et de contacts ultérieurs. Alors, maintenant, le problème, c'est que on a une vue très grossière des voies de signalisation. On sait à peu près comprendre par quel mécanisme la cellule fait passer de l'information. Mais maintenant, il va falloir aller dans son labo et puis essayer d'identifier tous les participants à ces voies de signalisation et quels sont le type d'informations qui sont capables de s'échanger. Et alors là, malheureusement, quand on commence à faire ça et qu'on va plus profond dans la cellule, qu'on ne se contente pas juste d'une vision globale, on commence à dessiner ce genre de choses. Donc par exemple, l'objet que vous avez ici, je ne vais pas passer trop de temps sur cette carte, mais si vous regardez par exemple l'objet qui est ici, c'est un récepteur qu'on appelle EGFR, c'est-à-dire le Epidermal Growth Factor Receptor. Donc c'est le récepteur qui est censé être activé pour produire à terme une croissance cellulaire. Et vous avez chacun de ces arcs ici correspond grosso modo à une expérience en labo qui montre que ce récepteur est capable d'interagir avec cette protéine pour former ce substrat. D'accord ? Donc chacun des arcs qui est ici correspond à des heures et des heures de travail de quelqu'un dans un labo, ou probablement de plusieurs personnes dans plusieurs labos, et qui ont fini par dire « maintenant je crois que A est capable de se lier à B, et que lorsque A se lie à B, B devient actif ». Et on va commencer à faire un travail titanesque, qui est d'y aller étape par étape, et de rassembler tous ces faits. Alors il y a déjà un problème qu'on peut tout de suite voir dans ce genre de carte, c'est que cette carte ici, elle est évidemment partielle. Alors pourquoi est-ce qu'elle est évidemment partielle ? Si vous regardez le récepteur qui est ici, vous voyez qu'il y a des, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a des petits ronds autour de ce récepteur. Vous les voyez ? Ces petits ronds, ici, ce sont des résidus, comme les sérines dont je vous ai parlé juste avant, qui sont capables d'être modifiés. Donc là, ce récepteur, il a une dizaine de petits ronds. Ça veut dire que juste ce récepteur, il a au moins 2 puissance 10 états locales. Or, vous voyez ici, on en a représenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a représenté peut-être une dizaine d'états de ce récepteur, mais on n'a clairement pas pu tous les représenter. Ce n'était pas possible. Alors, 2 puissance 10, à la limite, on pourrait y arriver. Mais vous voyez que ce récepteur, il est capable d'interagir avec une autre copie de lui-même. Et donc, tous ces états se multiplient les uns avec les autres. Et il y a une explosion combinatoire qui fait que c'est illusoire de penser qu'on va être capable de représenter dans une carte comme ça tout ce qui peut se produire comme interaction entre protéines. Donc, évidemment, les biologistes qui font ce genre de choses vont essayer de se réduire à uniquement les interactions qu'ils ont observées ou les interactions qu'ils estiment être véritablement importantes. Donc il y a beaucoup d'implicite dans ce genre de représentation. Alors, cette carte, évidemment, n'est pas la connaissance. Cette carte, c'est juste un support à la connaissance. Mais si j'ai véritablement envie de savoir pourquoi, je revienne juste deux secondes sur la carte. Supposez que maintenant je m'intéresse vraiment à l'interaction qui a lieu, par exemple, ici. Si je regarde juste cette carte elle-même est trop grossière pour que je comprenne exactement ce qui se passe. Donc il va falloir que j'utilise cette carte comme un pointeur vers la littérature et que j'aille voir le véritable papier de bio qui décrit l'expérience et qui décrit l'interaction pour comprendre ce qui a lieu ici. Et lorsque je vais voir un papier de bio, alors là, pour un informaticien, c'est le cauchemar, voilà le genre de choses qu'il faut que je lise. Alors, heureusement, tous les papiers de bio ne sont pas à ce niveau de détail, bien sûr. Mais il y a quand même une quantité d'informations non négligeables dans les papiers de bio qui sont représentées comme ça. Alors là, je m'adresse plus aux quelques informaticiens qu'il y a là. Pour représenter de l'information, on a plein de choix de langage. D'accord ? Là, le choix de langage qui a été fait ici, c'est l'anglais. C'est le même langage qui est utilisé pour écrire des pièces de théâtre. Il n'y a absolument aucune raison que l'anglais de Shakespeare soit le langage le plus approprié pour représenter ces interactions, surtout si finalement les types de briques élémentaires qui sont décrites, elles varient par leur chimie, elles varient par des constantes cinétiques, elles varient par plein de choses, mais c'est tout le temps un tout petit peu la même histoire. A se lie à B, A passe de l'information énergétique à B, B se détache et B va activer quelqu'un d'autre. Donc si vous regardez un petit peu ce papier, je ne vous demande évidemment pas de le lire, mais vous voyez que, on regarde juste le début ensemble, là vous voyez qu'ici on est en train de parler de deux résidus, un résidu sérine, un résidu tyrosine, et on est en train de dire que pour que quelqu'un soit actif, je crois que c'est RAF1, c'est le nom d'une protéine, pour que RAF1 soit actif, il faut que ce résidu-là et ce résidu-là soient phosphorylés. Et puis ensuite, on a toute une discussion sur qu'est-ce qui peut se passer d'autre, qu'est-ce que RAF peut activer, quelles mutations vont faire que RAF n'est pas activé. Mais pour comprendre ce qu'il y a dans ce texte, on n'a pas d'autre choix que de le lire. Alors, il y a quelques années, il y a la DARPA, l'agence de recherche américaine qui est liée à l'armée américaine, a injecté 50 millions de dollars dans un projet qui n'était pas à but militaire, qui était juste à but de savoir s'il était possible d'utiliser des ordinateurs pour lire des papiers de bio et extraire l'information biologique cachée dans les papiers de bio dans un langage qui serait compréhensible par un ordinateur. Alors vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu rageant, c'est que ces papiers, ils ont été écrits par des humains. Donc plutôt que de les avoir écrits dans un formalisme comme ça, peut-être que les humains auraient pu les écrire dans un formalisme où il n'y aurait pas eu besoin d'appel à un ordinateur pour traduire l'anglais de Shakespeare dans un anglais beaucoup plus pauvre, ou même dans un langage formel. Donc il y a énormément de pertes d'informations. Alors pourquoi il y a de la perte d'information ? Une toute petite parenthèse avant de vous parler du problème de l'explosion de la littérature. Ce n'est pas parce qu'on utilise une langue qui n'est pas formelle qu'on n'est pas en train de décrire un objet formel. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu des mathématiciens depuis très longtemps. Aujourd'hui, maintenant, on commence à faire des outils algorithmiques pour faire de la preuve, donc de la preuve formelle. Mais pendant très longtemps et encore aujourd'hui, la plupart des mathématiciens se contentaient de preuves écrites. Là, ici, une preuve écrite en français. Et si vous essayez de lire cette preuve, vous allez voir que vous allez être exposé aux mêmes difficultés qu'un biologiste qui lit le papier de bio. C'est qu'il faut d'abord résoudre la compréhension du français, l'abstraire, pour enfin se convaincre que la preuve est correcte. Alors ça, c'est une preuve par Euclide traduite par Descartes. Elle est certainement correcte, mais elle est correcte par intimidation, on va dire. Mais être vraiment sûr que la preuve est correcte, ça nécessite déjà de comprendre ce texte. Donc voilà, donc c'est pas un problème qui est spécifique à la bio, mais qui a déjà été, enfin qui est en voie d'être résolu par les mathématiciens, et on pourrait se dire que probablement on devrait pouvoir faire la même chose pour la biologie. Alors pourquoi est-ce que c'est encore plus problématique en biologie qu'en maths ? Ben, c'est lié à l'abondance des papiers en biologie. Donc si vous regardez ici ce petit tableau comparatif, vous avez ici le nombre de papiers publiés. Alors le vert ici, par exemple, c'est le nombre de papiers publiés par an qui mentionne la protéine, c'est une protéine spécifique, EGF, dans son titre ou dans son abstract. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste un papier qui mentionne EGF au passage, c'est quand même un facteur assez important. Et vous voyez que si vous êtes un labo spécialiste de la protéine EGF, si vous êtes un scientifique spécialiste de EGF, en théorie, vous devriez au moins être au courant de ces 1100 papiers publiés par an. Ce ne sera évidemment pas le cas, bien sûr. Mais c'est encore pire si vous travaillez sur P53, vous devez lire à peu près 5000 papiers par an qui vont mentionner P53 dans le titre ou l'abstract. Donc à titre de comparaison, si vous êtes un informaticien spécialiste de théorie de la réécriture, on pourrait imaginer qu'il y a à peu près 100 papiers par an qui sont publiés exactement sur ce thème. Donc c'est des nombres qui sont beaucoup moins inquiétants. Et le résultat des courses, c'est que, alors évidemment, comme personne ne lit 5000 papiers par an, un biologiste qui va être spécialiste de P53 et qui veut se tenir au courant des dernières découvertes sur sa protéine favorite, il va lire des reviews. Il ne va pas lire les papiers, il va lire des reviews. Mais évidemment, la personne qui a écrit les reviews n'a pas lu les 5000 papiers. Donc il y a un espèce de petit problème qui se mord la queue. Et de savoir quelle est la review qu'il faut lire, si vous tapez sur PubMed une review de P53, vous avez déjà beaucoup, beaucoup de retours. Probablement, vous allez prendre la dernière en date. Mais on voit que là, derrière, il y a probablement beaucoup de pertes d'informations. Et d'ailleurs, c'est mesuré indirectement par des études qui montrent qu'en sciences naturelles, il y a environ 30% des papiers publiés qui ne sont jamais cités. Alors 30%, ça ne paraît pas forcément énorme, mais il faut considérer qu'un papier qui contient des résultats expérimentaux, ce n'est pas juste un papier perdu, c'est aussi des heures et beaucoup d'argent publiés pour rien, puisque une fois que ces papiers ne sont pas lus, ils ne sont plus analysables par des ordinateurs et les données qu'ils contenaient sont perdues. Donc ça fait beaucoup de redites. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que comme personne n'est en capacité de lire tout ce qui est publié sur les protéines, sur leurs interactions, tous les biologistes, et là je parle aux biologistes d'entre vous, tous les biologistes ont un modèle en tête. Parce qu'il faut être capable de se repérer dans cette espèce de surabondance d'interactions, et donc forcément, on doit avoir un modèle de à quoi sert ma protéine, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle interagit avec le reste de l'univers. Et ça produit des controverses, parce que quand on a des modèles implicites, parfois on fait des expériences et on a des expériences qui se heurtent avec ces modèles qui sont un peu implicites. Donc par exemple, on va trouver ce genre de phrase. In the proposed model, et faites-moi confiance, quand on lit le papier, le modèle il n'est pas explicitement décrit. Donc cette phrase, elle veut juste dire ce qui est bien admis comme étant un modèle d'interaction. Donc dans le modèle communément proposé, cette protéine est la kinase qui est responsable de l'activation de truc. Or, les expériences que moi j'ai mis en évidence ne vont pas dans ce sens-là. Alors qui a tort, qui a raison? On ne peut pas vraiment trancher ces controverses, en tout cas rapidement, parce que le modèle n'est jamais explicite, ou rarement explicite. Alors Walter disait que je ne suis pas moi-même un biologiste, mais j'ai été exposé aux biologistes pendant une quinzaine d'années, donc suffisamment pour commencer à faire une petite typologie des biologistes. Alors pour ceux qui êtes biologistes ici, vous allez me dire si vous vous reconnaissez là-dedans. Donc quand on discute avec des biologistes, on a les pragmatiques, donc ceux qui ont développé une stratégie de dire finalement c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont importantes, mais moi, les choses qui sont vraiment importantes pour moi, c'est celles que je suis capable d'observer. Donc on va dire que ceux-là, c'est les pragmatiques. Alors il y a les biologistes sociaux qui disent ce qui est important, c'est pas seulement ce que j'observe, c'est ce que mes collègues, ceux en qui j'ai confiance, observent, et puis c'est ce qui est aussi publié dans les journaux dans lesquels j'ai confiance. Je vais y croire. Il y a les biologistes pessimistes, et ils vont dire, ah là là, tout est important, tous les détails sont importants, je ne crois pas du tout au modèle. Les modèles, c'est de la construction mentale, mais ça n'a pas d'application. Et enfin, il y a le biologiste optimiste, alors c'est peut-être Walter Fontana, qui dit, tout n'est pas important, parce que si tout était important, il y aurait autant de phénotypes qu'il y a d'interaction. Or, on voit peu de phénotypes, il y a beaucoup moins de phénotypes que d'interactions, donc la cellule, elle est capable de quotienter beaucoup de choses, et comme elle résiste aux perturbations, tout n'est pas important. Alors moi, je dis ça aux étudiants, parce qu'on donne des cours à des étudiants en biologie, je leur dis, quand vous allez chercher un travail, essayez de bien savoir à quel biologiste vous adressez. Donc si par exemple vous commencez à présenter vos résultats et que la première question qui arrive c'est « How often do you do wet lab experiments ?» Est-ce que vous allez souvent avec votre tube à essai faire des choses? Il faut savoir qu'on a affaire à probablement quelqu'un qui est un pragmatiste pessimiste. Donc il ne faut peut-être pas trop mettre en avant la question de la modélisation. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que finalement, la biologie et les biologistes s'en tirent très bien, c'est une science qui progresse à grands pas. Pourquoi est-ce qu'elle se poserait ce genre de questions? Alors, la raison, moi, que je voudrais avancer, c'est que les modèles implicites, donc ceux qu'on a dans la tête sans jamais vraiment oser les poser sur papier, ça crée ce que j'appellerais du fonctionnalisme. Alors, je vais essayer de vous l'illustrer avec un exemple. Regardez cette chaise ici. C'est une chaise, on est tous d'accord. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est sa fonction? S'asseoir, d'accord? Je suis en désaccord complet avec vous. Je suis en désaccord complet avec vous parce qu'une chaise, ça sert à empêcher une porte de s'ouvrir. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une dissonance ici ? C'est que si moi, je publie un papier dans lequel je vais écrire que la chaise, ça sert à empêcher une porte de s'ouvrir, ça va rentrer en contradiction avec le modèle implicite que vous avez de la chaise, qui est qu'une chaise, ça sert essentiellement à s'asseoir. Mais donc, ça veut dire qu'on n'est pas ni la personne qui défend que la chaise sert à s'asseoir, ni la personne qui dit qu'elle sert à empêcher une porte de s'ouvrir, n'ont tort, les deux ont raison. Le problème, c'est qu'une chaise n'a pas de fonction. Une chaise, elle a une fonction uniquement dans un système donné. Donc il faut considérer un système, et une fois qu'on a parlé d'un système, on peut parler de la fonction de la chaise dans ce système. Mais si je ne suis pas en train de parler d'un système, je suis juste en train d'observer la chaise n'a pas de fonction. Elle a une structure. Là, par contre, je peux commencer à l'étudier. Il se trouve qu'elle a un côté très plat, elle a des endroits pas plats du tout. Quand je la tourne comme ça, elle ne tient pas. Quand je la mets comme ça, elle tient. Toutes ces observations-là sont structurelles. Mais une observation de fonctionnalité, on ne peut pas la faire au niveau de la chaise. Et donc, si on n'a pas le droit de la faire au niveau de la chaise, ben, on ne peut pas la faire au niveau d'une protéine. Une protéine n'a pas de fonction. Une protéine, elle a une capacité expressive. Donc, elle va pouvoir se tordre dans certains sens, elle va avoir des domaines kinases, etc. Mais une protéine elle-même n'a pas de fonction. Alors évidemment, comme la majorité d'entre vous êtes biologistes, vous allez être plus ou moins d'accord avec ça. Une protéine n'a pas de fonction, on est bien d'accord, on fait juste des raccourcis quand on parle de la fonction d'une protéine. Mais ça a quand même tendance à créer des modèles implicites dans la tête des gens qui les étudient, et on obtient des choses comme ça. Par exemple, celle-ci s'appelle DNMT3. DNMT3, le nom de la protéine veut dire DNA methyl transferase. Donc c'est une protéine dont la fonction est de transférer un groupe méthyle sur des cytosines de l'ADN. D'accord ? Donc sa fonction est de transférer des groupes méthyl sur l'ADN. Et on trouve des papiers, un papier de 2018, mais il y en a plusieurs autres, qui disent « Ah, la DNA méthyltransférase, donc celle dont la fonction est de transférer des groupes méthyl sur l'ADN, elle a l'air de déméthyler l'ADN. Donc elle fait la fonction inverse de son nom. » Et donc, ben, au démarrage, parce que moi, justement, à l'époque, je travaillais sur des modèles de réparation de l'ADN, il y avait des controverses de biologistes sur cette question-là. Ce n'est pas possible que le DNMT enlève des groupes méthyl de l'ADN, puisque le DNMT est fait pour mettre des groupes méthyl sur l'ADN. Et tout ça vient probablement de ce problème du modèle implicite. Donc, si on regarde cette distinction entre structure et fonction, en informatique, on est dans un monde beaucoup plus confortable, parce que cette distinction-là, elle est très naturelle. On a la structure en informatique, on appelle ça la syntaxe. Donc c'est juste comment est-ce qu'on forme des termes. Ensuite, la capacité d'interaction d'un objet, c'est juste la sémantique de cet objet informatique. Et maintenant, la fonction d'un objet informatique, c'est ce qu'on va appeler un logiciel, donc ou un algorithme. Donc c'est un objet, par exemple une boucle for ou une boucle while, n'a pas de fonction, mais ça a une fonction dans un programme. Donc là, j'avais donné un exemple pour Walter de lambda calcul, où ici, c'est la syntaxe du lambda calcul. Là, c'est les règles de comment est-ce qu'on réduit un lambda terme. Et ici, c'est un gros lambda terme, et puis il faut le regarder entre les yeux pour savoir qu'il est en train de faire moins 1, je crois, ou plus 1 sur les entiers de Church. Mais ça n'a pas de sens de parler de la fonction de lambda xm, ni même de parler de la fonction de la bêta réduction, même si les objets sont des fonctions. Alors en biologiste, évidemment, cette distinction existe. On pourrait dire que, par exemple, les biologistes qui vont regarder la structure, ben, c'est ceux qui vont faire de la biologie structurelle. On pourrait dire que les biologistes qui regardent les interactions sont ceux qui font de la biologie moléculaire. Et on pourrait dire que les biologistes qui essaient d'étudier les fonctions sont ceux qui font de la biologie des systèmes. Mais évidemment, les frontières sont très perméables et c'est compliqué de dire que quelqu'un qui fait de la biologie des systèmes ne fait pas de biologie moléculaire et réciproquement. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par connaissance exécutable ? Alors, c'est pareil, je me replace à nouveau en informatique, où c'est beaucoup plus facile de définir les concepts. En informatique, on pourrait dire qu'un langage est un langage de connaissance dans le sens où il est transparent. C'est-à-dire que je regarde ce code, je peux même regarder son type ou son interface, et je vais comprendre très rapidement ce qu'il fait. Il implémente la fonction mathématique factorielle. D'accord ? Alors, ce langage-là ici, là en l'occurrence au camel, c'est ce qu'on pourrait appeler un langage qui est de représentation des connaissances algorithmiques et qui est aussi exécutable. Mais l'emphase ici est plutôt sur les connaissances. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est que c'est un langage qui est transparent et qui permet de représenter des fonctions mathématiques de manière la plus simple et la plus transparente possible. Mais c'est aussi exécutable, c'est-à-dire que je peux exécuter un petit bout de code dans camel en utilisant le bytecode. L'exécution va être lente, mais il y a une sémantique opérationnelle. D'accord ? Donc si j'écris un programme camel, je peux l'exécuter, l'interpréter. Mais voici un autre formalisme qui est un code assembleur. Et vous voyez que le code assembleur, on ne peut pas vraiment dire que c'est de la représentation des connaissances, mais par contre, c'est très exécutable. Et d'ailleurs, c'est une partie du code assembleur qui correspond à ce programme ici. D'accord ? Et donc maintenant, ici, l'emphase, elle va être sur l'exécution et pas tellement sur la représentation des connaissances. Et d'ailleurs, si je vous donne que cet objet-là, comprendre ce que fait ce programme, ce qu'on appelle du reverse engineering, et c'est un problème très compliqué. D'essayer de revenir à un programme compréhensible à partir d'un objet comme ça, c'est non trivial. Alors en biologie, un programme informatique, il va réécrire la mémoire d'un ordinateur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un programme biologique ? Il n'y a pas vraiment de mémoire qu'on est en train de réécrire, mais l'idée c'est qu'on est en train de réécrire un état de la cellule ou un état du tube à essai. Alors comment est-ce qu'on va représenter ça ? C'était une partie importante du cours de Walter. C'est l'idée qu'on va abstraire la cellule ou le tube à essai comme étant un graphe où chaque nœud du graphe vont être des protéines et les arêtes qu'il va y avoir entre deux protéines correspondent à des liaisons covalentes ou non covalentes entre des protéines. Et on va avoir ici aussi des petits labels qui vont dire que des sites de ces protéines peuvent être modifiés. Donc on peut représenter cette brique élémentaire comme trois règles de réécriture. Une première qui dit comment est-ce qu'on lit A à B, l'autre qui dit comment est-ce qu'on les détache, et la troisième qui dit que la protéine A peut être modifiée. Donc qu'est-ce qu'on va réécrire dans un programme biologique ? Dans un programme Kappa, on va réécrire un état. Donc on va représenter la cellule comme un graphe, on va avoir une série de règles de réécriture, et, alors je vais passer un petit peu vite sur ce transparent parce que ce n'est pas le but de cet exposé, mais on va définir une série d'étapes qui vont passer d'un état du système à un autre état dans lequel quelque chose vient de se produire. Et cette réécriture, contrairement à la réécriture d'un programme informatique classique, où on va réduire dans l'ordre indiqué par la pile d'exécution, ici, on va le réduire de manière stochastique, probabiliste, c'est-à-dire que l'endroit où la règle va être appliquée va être tiré au hasard. D'accord ? Mais sinon, on peut voir exactement l'exécution d'un modèle Kappa comme étant un espèce de code assembleur qui réécrirait un état mémoire qui est un graphe correspondant à des interactions entre protéines. Alors, si on est d'accord pour dire qu'un modèle Kappa, c'est un modèle exécutable de la biologie, quel est le langage qui correspondrait au CAMEL, si vous voulez, à un langage avec des vraies features de langage, de l'abstraction, de la composition, des interfaces, du typage, qui vivrait au-dessus de ce langage ici, qui est un langage très bas niveau. Alors, c'est ce que je vais vous décrire dans ce qui reste ici. Donc, la première partie, en général, on dit « Ah oui, mais Kappa lui-même, ou ce langage de réécriture de graphe, il y a quand même plus de connaissances dans un modèle Kappa que dans un langage assembleur. La preuve, c'est que je peux zoomer dans deux règles de réécriture, voir qu'elles correspondent à quelque chose comme ça, et maintenant montrer ça à un biologiste en lui disant « Est-ce que tu es d'accord avec ma règle de réécriture ?» Alors moi, si je suis un biologiste, je vois cette règle de réécriture, elle dit quoi ? Elle dit que EGF est capable de se lier à EGFR, essentiellement de manière réversible. Alors là, moi, en tant que biologiste, je peux dire « Pourquoi pas ? Why not ? Je vais être d'accord avec ça. » Mais alors le problème, c'est que là, j'ai pris deux règles ici qui ont une explication biologique relativement plausible avec très peu de structure nécessaire. Mais la plupart du temps, ça ne va pas suffire de regarder la règle pour comprendre quel est le fait biologique qu'elle est censée représenter. On va devoir utiliser des commentaires dans le texte qui vont dire « Ah, le petit site L qui est ici, je l'utilise pour représenter ceci, le petit site CR qui est ici, je l'utilise pour représenter quelque chose d'autre. » Et donc, je suis en train de mélanger de la représentation des connaissances avec de l'encodage des connaissances. Et ça, c'est typiquement un problème qui n'est pas un problème biologique, qui est un problème de compilation. Donc, le problème, quand on a comme langage de description de la biologie que de la réécriture de graphes, je suis en train de mélanger deux activités. Un qui est représenter les connaissances, et le deuxième qui est encoder de l'information pour avoir une exécution possible. Et donc, il faut être capable de séparer les deux. Alors, plutôt que d'introduire le formalisme sur lequel on est en train de travailler de manière technique, je vais vous l'introduire par un exemple. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Et puis ensuite, si vous avez des questions techniques, vous pouvez toujours les poser. Alors, je vais utiliser un exemple de réparation de l'ADN pour illustrer l'approche. Donc, on va s'intéresser au tout début d'une étape de la réparation de l'ADN. Donc, on part d'un brin d'ADN, d'un double brin d'ADN, dans lequel il y a une base ici qui a muté. Typiquement, c'est une cytosine qui serait devenue une uracile. Et donc, au lieu d'avoir une paire CG, comme il se doit, on va avoir une paire UG, donc qui est représentée ici par le fait qu'elle n'est plus vraiment collée à la base d'en face. Et dans la réparation de l'ADN, il y a un enzyme qui est bien identifié par les biologistes, qu'ils ont nommé UDG, pour Uracil DNA Glycosylase, c'est-à-dire la protéine dont la fonction est d'enlever une uracile de l'ADN. Et effectivement, elle a tendance à identifier des mismatchs UG et les remplacer par un trou, c'est-à-dire qu'on va enlever l'uracile et mettre un site AP à l'endroit de l'ADN pour dire qu'ici, il n'y a plus de base à cet endroit-là. Donc on va juste représenter cette étape et regarder le problème que j'ai voulu vous illustrer dans le slide précédent, de la confusion de la représentation des connaissances avec l'encodage. Donc imaginez maintenant qu'on a deux labos de biologistes. Il y en a un qui travaille à un niveau très abstrait et un qui travaille à un niveau un petit peu plus concret. Donc on va avoir un labo de biologiste qui va par exemple représenter ma réparation de l'ADN avec un graphe très grossier dans lequel un bout d'ADN c'est juste une patate que j'ai appelée DNA, une autre patate que j'ai appelée DNA, une autre patate que j'ai appelée DNA, mais celle-ci est annotée avec un petit label qui dit que cette patate ici représente un mismatch UG alors que celle-là représente un GC et un AT. D'accord ? Donc là on a une première représentation parfaitement valide en termes de graphe du problème que j'ai introduit. Maintenant, ici, on a un deuxième labo qui, lui, va utiliser une représentation de graphe plus précise. On va descendre un tout petit peu plus dans les boyaux de l'ADN. Alors, ce n'est encore pas de l'ADN, vous voyez que c'est encore très abstrait, mais on a plus d'informations ici parce que je représentais un mismatch UG comme étant une paire U au-dessus d'une paire G qui sont liées avec, avec des sites que j'ai appelés UP. Et vous voyez qu'ici, j'ai représenté les deux backbones de l'ADN, 5', 3', 5', 3'. Donc ici, on a un encodage qui, d'une certaine façon, est plus bas niveau, elle est plus proche de la véritable biologie. D'accord ? Alors maintenant, comment est-ce que je vais représenter l'étape de ma glycosylase ? Ben, le problème, c'est que ici, je vais devoir encoder le changement, le début de la réparation, comme étant une modification sur le flag, sur l'annotation que j'ai de cette patate. Alors qu'ici, vous allez voir que la modification qui est effectuée par l'enzyme va être une modification structurelle de ce graphe. Donc dans un cas, c'est juste une annotation qui va changer, et dans l'autre, c'est la structure du graphe elle-même qui va changer. Alors plutôt que de devoir écrire des modèles kappa, on va prendre une approche logique. On va décrire ce qui se passe par une logique descriptive sur ces graphes. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est que supposer que ce premier labo utilise cette approche logique, il va commencer à documenter. Il va dire, vous avez accès à un prédicat UG, UNR, et ce prédicat UG qui demande un seul argument, il décrit un mismatch UG sur l'ADN. Et j'ai un deuxième prédicat que j'appelle APG, qui est aussi UNR, et qui décrit un mismatch APG sur l'ADN. On a ce deuxième labo qui dit, moi aussi, je donne la possibilité d'exprimer qu'il y a un mismatch UG, mais c'est un prédicat qui demande deux arguments. Un qui va identifier U dans le graphe et le deuxième qui va identifier G. Et enfin, on va donner un autre prédicat, celui-là il est UNR et qui identifie un mismatch APG. Alors je vais regarder ces deux choses-là et je vais dire, moi j'ai une connaissance à ajouter à ces modèles et c'est une connaissance qui va décrire l'interaction de UDG. Alors pour ça, je vais aller regarder comment est représenté ce prédicat. Et vous voyez que ce prédicat dit, dans ma représentation, un EX satisfait le prédicat être un mismatch UG si mon EX est de l'ADN et qu'il est rouge. Et le deuxième, il dit, le prédicat que je vous ai promis APG, il dit qu'un EX satisfait bien au prédicat APG si c'est aussi de l'ADN mais qu'il est vert. D'accord ? Alors avec ces contraintes logiques, ce qui va se passer ici, c'est que maintenant vous allez regarder comment est-ce que ces prédicats ici sont implémentés. Donc je vais vous les décrire dans cette logique. Donc ici on dit, deux nœuds XY satisfont au fait qu'ils sont un prédicat, qu'ils représentent le fait d'être un mismatch UG. Si Y est une satisfait à G, si X satisfait à U, et qu'en plus ils sont tous les deux appareillés. Le code de être appareillé est décrit ici, mais vous pouvez l'ignorer pour l'instant, même complètement, vous pouvez totalement l'ignorer. Et ici, on va avoir le prédicat qui dit une base X est un APG si X est un G, et que les petits U qui sont au-dessus de ce X ne sont pas connectés à quelqu'un. Donc si pour tous les U qui satisfont le prédicat être up de U et, qui sont, et dont la racine est le X qui est donné ici, s'ils sont libres. Donc on a ces deux représentations, une qui est très grossière, deux qui sont beaucoup plus détaillées. Et maintenant, on va pouvoir représenter dans cette logique cette phrase initialement en anglais qui dit que UDG est capable de transformer UG en un mismatch APG. Alors je vois que ici, pour ce labo-là, je vais pouvoir utiliser ces deux prédicats. Donc je vais juste dire, dans ma logique, je vous décrirai dans un instant ce que veut dire cette phrase. Donc on dit, j'utilise le prédicat X satisfait à être UG, et je demande que ce X-là soit lié à quelque chose qui satisfait au prédicat d'être un UDG. Donc ça, c'est les préconditions de ma phrase. Lorsque UDG est lié à un mismatch UG, voilà ce qui se passe. Donc le petit étoile qui est ici indique ce qui va se produire à l'instant suivant. Donc, si X est un UG et que Y est lié à ce X, alors à l'instant suivant, X devient un APG. Donc, c'est juste une traduction de cette phrase dans ce formalisme. Donc, vous voyez tout de suite que la logique dont je suis en train de vous parler, c'est une logique de description des graphes, mais elle ne se contente pas juste de décrire un graphe, elle décrit des paires de graphes. Elle va décrire la précondition qui est nécessaire pour que quelque chose se produise, et elle va décrire qu'est-ce qui peut se produire en post-condition. Toutes les contraintes sur les préconditions, ça va être des prédicats comme ça, et toutes les contraintes sur les post-conditions, c'est toujours des prédicats de ma logique, mais qui vont être annotés par une petite étoile pour indiquer qu'ils s'appliquent à l'instant suivant. Donc maintenant, je vais pousser dans ma base de connaissances ce nouveau prédicat, et je vais le pousser aux connaissances produites par ce labo. Et donc l'effet attendu, c'est que si jamais UDG est en contact avec l'ADN rouge, et bien l'ADN va passer bleu. Donc la composition de ce petit fait ici avec les connaissances produites par ce laboratoire devrait me produire automatiquement un objet comme ça. Et maintenant, je vais utiliser les connaissances mises à disposition par ce deuxième laboratoire ici, et je vais dire, et bien si j'ai un prédicat UG qui est lié à UDG, alors à l'instant suivant, il devient un APG. Et l'effet attendu, c'est que si jamais un UDG est en contact avec une guanine ici, elle va faire disparaître la base qui était au-dessus et la laisser partir dans le contexte. Le message ici important est qu'on a une représentation purement logique des contraintes structurelles. Donc ici, comme vous voyez que la représentation de mon ADN est très grossière, eh ben, l'implémentation de ces prédicats est extrêmement simple. Si j'ai une implémentation un petit peu plus structurée, eh bien, la description des prédicats va demander beaucoup plus de structure. Mais le message qui est important, c'est qu'ajouter de la nouvelle connaissance ici doit pouvoir se composer avec une structure grossière ou une structure compliquée et produire un effet facilement descriptible et observable. Alors, pour vous expliquer dans le quelques temps qui me reste comment est-ce que ça marche, je suis obligé de vous de rentrer un tout petit peu plus dans les détails sur qu'est-ce que c'est que l'interprétation d'une formule logique. Donc ici, j'ai un exemple très simple. Cette formule logique dit... Il existe un nœud X, tel que lorsque mon nœud C, un nœud C est connecté à X, alors à l'instant d'après, la racine du nœud C doit devenir rouge. Donc c'est juste une petite contrainte logique ici. Et vous voyez que ces trois paires de graphes ici, elles vivent tous comme étant des interprétations valides de cette formule logique. Donc vous voyez que ici, la protéine C, elle est liée à quelqu'un, sa racine est déjà rouge dans les préconditions. Donc, cette chose-là ici satisfait le fait que C est lié à quelqu'un. Et dans les post-conditions, vous voyez que C est toujours lié à rouge, c'est une règle complètement identité. Et vous voyez que la post-condition, elle satisfait bien le fait que la racine de C doit être rouge. Mais vous avez ici une deuxième interprétation de cette règle, dans laquelle C est bien lié à quelqu'un, mais ce quelqu'un n'est pas rouge. Donc, pour satisfaire la post-condition, il va falloir que cette protéine ici devienne rouge immédiatement. Et vous voyez au passage qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est produit ici, qui est que l'arête qui était là a disparu. Donc vous voyez que cette modification ici n'est pas impliquée par les connaissances, mais elle est compatible, puisque ça satisfait les prémices et ça satisfait les post-conditions. Donc cette paire-là vit aussi dans l'interprétation de phi. Et donc vous avez toute une famille, en fait, une famille infinie de paires de graphes qui font satisfaire à ma formule logique. Donc, pour interpréter exactement ce que fait cette formule logique, je vais être obligé de parler de ce qu'on appelle la minimisation. C'est-à-dire que j'ai ma formule logique, mais je ne veux pas générer toutes les règles de réécriture qui satisfont ma formule logique, je veux générer les plus petites. Alors pour ça, il faut introduire ce qu'on appelle un ordre de minimisation. Donc vous voyez que cette règle qui est ici, qui est la règle identité, elle contient moins d'actions que cette règle-là. Parce que vous voyez que celle-ci, elle contient une action qui est de faire passer blanc à rouge ici. Et vous voyez qu'à nouveau, celle-ci, elle contient encore plus d'actions que celle-là, puisque non seulement j'ai fait passer blanc à rouge, mais en plus, j'ai enlevé une arête. Donc ces trois interprétations, ici, ou ces trois modèles, sont reliés par cet ordre d'action. Par contre, ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'ordre d'action, parce que ça, c'est une règle identité, mais on pourrait croire qu'il y a moins d'actions entre cette règle et cette règle-là, mais pour être comparable dans l'ordre d'action, il faudrait que les préconditions soient identiques. Donc ici, ces modèles-là, ces trois-là sont reliés et celui-ci est indépendant. Donc maintenant, je vais prendre ma formule logique initiale ici et je vais effacer tous les modèles qui ne satisfont pas déjà ma formule logique. Donc ici, il n'y en a qu'un, c'est celui-là, il ne satisfait pas la formule logique, donc je vais pouvoir le supprimer. Il va rester ces trois modèles-là. Et maintenant, je vais demander que je veux garder dans ces trois modèles uniquement ceux qui satisfont phi, mais qui en plus sont minimum vis-à-vis de cet ordre de minimisation. Et donc vous voyez que lui, ici, il a un modèle qui satisfait aussi phi et qui est plus petit, donc je vais jeter celui-là et je vais garder celui-là. Donc au final, si j'écris, si un biologiste écrit un fait comme ça, eh bien la minimisation de ce fait, ça va correspondre à ces deux règles de réécriture. Donc on va être capable de synthétiser deux règles de réécriture à partir d'un fait biologique qui aura été écrit comme ça. Et donc synthétiser des règles de réécriture va correspondre à cet opérateur de minimisation qui appartiennent tous les deux à l'interprétation de phi. Donc pour revenir à mon problème de l'ADN, souvenez-vous, je travaille là pour l'instant avec les bases de connaissances d'un laboratoire qui a été paresseux, qui a représenté l'ADN comme étant des grosses patates. Eh bien, je vais pouvoir tester mon fait biologique vis-à-vis des hypothèses, vis-à-vis de l'encodage que les biologistes auront choisi pour représenter ces prédicats. Donc je vais ajouter ce fait biologique et je vais demander de l'interpréter à l'aune de ces contraintes. Donc, comment est-ce qu'on va interpréter cette formule ? Eh bien d'abord, déjà, certainement, dans la règle de réécriture qui va être synthétisée, il va falloir que tout ce qui est vrai dans les préconditions soit vrai ici. Donc ici, je demande que j'ai un mismatch UG lié à UDG. Et le mismatch UG, on avait dit que c'était juste de l'ADN rouge et lié à UDG. Et ici, on a l'interprétation de Y, ça va être lui. Et là, c'est l'interprétation de X, ça va être lui. Dans les post-conditions, maintenant, je vais devoir mettre ce qui est au moins nécessaire pour satisfaire les prédicats qui ont une étoile. Donc ici, je vais devoir satisfaire le fait d'être un APG de X. Et donc, on a dit qu'être un APG de X, c'est juste être un ADN bleu. Donc voilà ma post-condition. Maintenant, la question, c'est est-ce que ceci est une interprétation minimale de cette formule ? Alors, la réponse est non, parce que ici, j'avais effacé UDG, mais ce n'est absolument pas demandé par la règle. Donc, l'interprétation minimale de la formule va minimiser le nombre d'actions, elle va reporter UDG de l'autre côté. Et donc, on obtient exactement la règle de réécriture à laquelle on s'attendait, qui est que quand UDG est collé à un ADN rouge, par application de ces règles logiques, on obtient un UDG qui est lié à un ADN bleu. Alors évidemment, la synthèse dans le monde plus complexe, elle demande un tout petit peu plus d'efforts de la part du programmeur, pas de la part du biologiste a priori. Je vais tester les conséquences de ma nouvelle formule logique sur ma base de connaissances ici. Donc je vais devoir reporter le prédicat être un UG de YX lié à UDG de Z, ici, donc je le reporte. Donc être un mismatch UG, c'est être un objet comme ça. Et demander que UDG de Z soit lié à ce conglomérat ici, c'est demander que UDG soit lié à soit lui, soit lui. Donc ici, on va déjà avoir au moins deux règles de réécriture. Une dans laquelle UDG est lié à U, parce qu'on n'a pas spécifié qui. Une dans laquelle UDG est lié à G. Et maintenant, dans la deuxième partie de ma règle, je vais devoir synthétiser quelque chose qui satisfait de manière minimale le prédicat être un APG de X. Et on a dit qu'être un APG de X, c'est juste être une base G qui n'a pas de partenaire au-dessus. Donc si je fais ça, à nouveau, cet objet-là n'est pas minimal. La minimalité va imposer que je dois reporter du membre gauche tout ce que je peux vers le membre droit, tant que ça ne viole pas les prédicats que j'ai imposés ici. Donc je vais reporter la base du dessus, et je vais reporter le fait que UDG doit être lié à U ou à G. Et donc vous voyez que ici, l'effet de cette règle logique sur cet encodage est celui qu'on attendait, alors que l'effet de ce morceau de connaissance sur cet encodage n'a pas l'effet qu'on attendait, puisque nous, ce qu'on attendait, c'était que la base U soit relâchée dans le contexte. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas, vis-à-vis de la barrière d'abstraction qu'on a choisie pour représenter l'ADN ici, on n'a pas saturé notre formule de tous les faits représentables à ce niveau d'abstraction. Vous voyez, on a été trop grossier. Là, ici, on est exactement au bon niveau d'abstraction. Ici, on est trop grossier. J'aurais dû dire plus de choses, parce que ici je suis capable de parler de ce que c'est qu'une base U seule, alors qu'ici, je ne suis pas capable de parler de ce que c'est qu'une base U. Donc, je vais saturer ma formule. Je vais lui ajouter un élément supplémentaire, qui est qu'à la fin de cette interaction, c'est-à-dire dans le étoile, le Y, qui jouait le rôle du U ici, doit être libre. Et maintenant, si je rajoute cette information, je vais obtenir exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que l'interprétation minimale de cette formule est maintenant une formule dans laquelle le reste de l'ADN est préservé, mais la petite base U qui est ici n'est plus liée à personne. Okay ? Donc la leçon à retenir de cet exercice, c'est que quand on a une spécification logique de la barrière d'abstraction à laquelle on est en train de représenter le modèle, on peut avoir un feedback immédiat de est-ce que les connaissances qu'on est en train de pousser sur le modèle sont suffisantes ou est-ce que je dois rajouter de l'information ? D'accord ? Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on obtiendrait dans la réécriture de graphes standard. On peut écrire ce qu'on veut, ça peut n'avoir aucun sens, mais on n'aura pas de feedback logique. Alors, on gagne quelque chose de plus, mais évidemment, je n'ai pas le temps de décrire exactement ce que c'est, mais on gagne quelque chose de plus, c'est que chacune de ces formules ici sont des formules logiques. Donc, qui dit formule logique dit qu'on est capable de requêter ces formules logiques, on est capable de poser des questions. Donc, par exemple, on pourrait imaginer qu'à chaque fois que j'ajoute des morceaux d'informations à ma base de connaissances, j'ai un feedback logique sur comment ces formules logiques s'imbriquent dans mes connaissances existantes. Donc, par exemple, ici, on pourrait avoir un retour pertinent qui est que la formule de dynamique de ma réparation de l'ADN que je viens de pousser dans mes connaissances, elle est déjà impliquée par une formule psi qui existait déjà dans ma base de connaissances. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire puisqu'on est dans un formalisme logique et qu'on ne serait pas capable de faire a priori. Alors là, c'est le dernier slide sur lequel je dois vous avouer que je vous ai menti. Donc le premier, il dit qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? On a essayé de mettre au point une logique qui permet d'exprimer la structure et la dynamique d'un monde qu'on représente comme étant des arbres qui sont capables de se lier les uns avec les autres. Là, je ne vous ai pas menti, et on l'exprime avec un formalisme comme ça, qui bien évidemment peut être caché par un langage de plus haut niveau et beaucoup plus amicaux envers les biologistes. Là où j'ai commencé à vous mentir, c'est de vous dire qu'on peut exécuter des requêtes logiques. Donc par exemple, on pourrait dire, est-ce que c'est vrai que phi de x et mon invariant i est équivalent à psi de x et un invariant j ? Ou bien, je pourrais demander, est-ce que c'est vrai que l'interprétation de cette formule est vide ? Mais ça, pour les logiciens, vous savez qu'en général, ce n'est pas possible. Hein, en général, ce n'est pas possible parce que la logique que j'utilise, elle est trop expressive. Donc, il n'y a pas d'algorithme qui va permettre de répondre à ces questions. Donc ça, c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge, je vous ai dit, ah, mais on a un opérateur de minimisation. Et regardez, il est formidable parce que cet opérateur de minimisation, il va être capable de transformer une formule logique en une règle ou une série de règles de réécriture de graphes. Mais ça aussi, ce n'est pas possible en général parce que d'écrire la minimisation dans la logique, en général, ça demande de passer à une logique de deuxième ordre. Et une logique de deuxième ordre, elle va être encore moins décidable, si vous voulez, que la première forme de logique. Donc c'est un deuxième mensonge. Mais c'est là que des miracles peuvent se produire. Et donc Adrien Husson, qui termine sa thèse sur le sujet et juste derrière est l'auteur de ce miracle, dit qu'il existe un fragment de cette logique qui est trop expressive. Et ce fragment de logique, si je suis capable de prouver que ma formule logique appartient à ce fragment, donc essentiellement ce fragment, il va borner les modifications qu'il va falloir explorer autour des variables que j'ai décrites dans ma formule. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais vous avez ici un arbre de preuve. Et vous savez que si vous me donnez une formule iota et que je suis capable de la passer à travers cet arbre de preuve, alors non seulement votre formule est décidable, donc la logique est décidable, mais en plus elle est synthétisable. C'est-à-dire que je peux la transformer en une série de règles de réécriture de graphes et que ce nombre de règles de réécriture de graphes est fini. Donc, vous pouvez lire le papier d'Adrien qui vient de paraître à ICLP extrêmement récemment. Et si vous êtes curieux de la technique, là je parle peut-être plutôt aux informaticiens, il soutiendra sa thèse le 16 décembre à l'IRIF à 14h. Et donc, si vous venez au bâtiment Sophie Germain, il y aura un panneau qui vous dira où est la salle et vous aurez tous les détails de la magie de ce système de preuves. Donc c'est quoi le pipeline qu'on propose, qu'on essaye de mettre en place, mais c'est un gros travail. C'est l'idée maintenant que finalement cet ensemble de règles de réécriture, c'est pas juste qu'on a remplacé, comme disait Walter à sa leçon inaugurale, on n'a pas seulement remplacé un système qu'on ne comprend pas par un modèle qu'on ne comprend pas. C'est qu'on va le remplacer par certes un ensemble de règles de réécriture, un ensemble de formalismes logiques, de formules logiques. Dans son ensemble, on ne les comprend pas, mais ces formalismes logiques, ces formules logiques, elles sont interrogeables par des questions logiques. Donc on a des moyens automatiques de le comprendre. Ce n'est pas juste qu'on va devoir regarder le code et essayer de comprendre ce qu'il fait, on peut lui poser des questions. Et plus que ça, on peut extraire des formules logiques de cette base de connaissances. Ici, par exemple, pour les règles dynamiques, en faire la disjonction, de dire que tout ça est possible, prendre des invariants biologiques, les mettre ensemble, les minimiser, et espérer que cette minimisation produise un ensemble de règles de réécriture qu'on va pouvoir exécuter de manière efficace. Voilà. Donc c'est ma conclusion. C'est un, comment est-ce qu'on appelle ça, un poncif de dire que la biologie moléculaire, c'est un peu comme les aveugles qui essayent de reconnaître qu'est-ce que c'est qu'un éléphant. Mais en vrai, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'objet qu'on essaye de décrire est gigantesque. Il n'y a évidemment pas un seul biologiste qui est capable d'avoir un modèle en tête de tout ce qui se passe. Il n'y a pas un biologiste qui est vraiment complètement d'accord avec son collègue, mais c'est complètement normal, mais en fait, ils ont un peu tous raison. Mais là où il y a un problème, c'est quand on est obligé de demander à chacun d'avoir un modèle implicite de l'éléphant en tête, parce que ça crée des controverses, ça crée de l'inefficacité, ça crée des frictions, Et il y a des outils informatiques qui devraient pouvoir nous aider à fluidifier et à résoudre ces controverses. Voilà, je vous remercie.